Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, merci d'être de plus en plus nombreux à vous réveiller avec le réveil culturel. Tous les jours de la semaine, tôt à la radio, de 6h à 6h30. Et quand vous voulez, si vous passez par l'écoute en ligne, en différé donc, ou l'abonnement au podcast. Tous les mardis, c'est l'actualité des expos. Aujourd'hui, art contemporain et cap sur Avignon, où le festival Viva Villa présente les travaux d'une cinquantaine de chercheurs et d'artistes, plasticiens, musiciens, graphistes, cinéastes, écrivains, historiens de l'art, qui ont tous travaillé autour du thème « La fin des forêts ». Pour nous en parler, la commissaire de l'exposition, Cécile Debray, et une artiste de cette manifestation, Marie Benin. L'exposition est à voir jusqu'au 10 novembre à la collection Lambert à Avignon.
Le réveil culturel. Mardi, expo.
Bonjour Cécile Debray.
Bonjour.
Alors, quand je parle de Viva Villa et de ces artistes qui ont fait une résidence, je parle bien sûr de ces prestigieuses résidences d'artistes.
Les trois grandes résidences artistiques à l'étranger, c'est-à-dire la Villa Médicis à Rome, la Casa de Velázquez à Madrid et la Villa Kujoyama à Kyoto,
au Japon. L'idée, c'est que depuis quelques années, depuis 4 ans, je crois, ces artistes se retrouvent autour d'un projet et ensuite, quelque part en France, puisque c'est un festival itinérant, on présente cette exposition collective. L'année dernière, c'était Marseille. Cette année, c'est Avignon, dans ce lieu à découvrir, très beau lieu, la collection Lambert à Avignon. Et le thème, la fin des forêts, ça vient de vous, Cécile Debray? Ce sont les artistes qui ont voulu travailler sur cette thématique qui, effectivement, nous intéresse plus que jamais aujourd'hui.
Oui, enfin c'est un thème, disons, qui me semblait pouvoir les rassembler tous. Et en général, ce festival qui consiste à montrer les travaux issus en fait de ces résidences qui sont souvent fermées, qui là sont montrées au public, consiste d'abord en un tour des ateliers et à la suite de cette première prise de contact avec les différents artistes dans les trois lieux, on essaie donc d'élaborer une thématique générale qui permettra de construire un parcours d'exposition avec une certaine forme de, non pas de narration, mais disons, donner un sens ou une promenade poétique à travers ses œuvres. Et donc le thème « La fin des forêts » m'est apparu de manière absolument, je dirais assez évidente en fait, puisque la plupart d'entre eux sont, comme nous tous, inquiets, je dirais, de l'avenir climatique de notre monde et surtout de notre société. Et par ailleurs, les questions de paysage, les questions du rapport à la nature et les questions de notre rapport au passé et à notre culture, mais aussi à notre terre, permettait vraiment de relier l'ensemble des artistes. Et peut-être l'une des artistes qui a exprimé ce thème de manière évidente, c'est sans doute Marie Benin.
Qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Marie Benin.
Bonjour.
À travers son travail à partir du livre de Julien Gracq, La fin des forêts.
Ces artistes résidents, d'abord, ce sont des artistes qui candidatent, les places sont chères, comme on dit, et donc ils vont être en résidence pendant un certain moment, ça varie de 3 mois jusqu'à une année, je crois.
Oui, oui, oui.
Mais alors, ces artistes qui viennent d'horizons divers, est-ce que déjà le fait qu'ils soient en résidence travaillent ensemble, en interaction?
Oui, alors absolument, c'est vraiment l'atout d'une résidence artistique, c'est que pour la Villa Médicis et la Casa de Velázquez, ils sont une promotion d'une quinzaine d'artistes. Ils résident pendant un an quasiment ensemble et donc le lien qui s'effectue entre eux est aussi un lien qui se forme à partir de disciplines diverses. On peut observer, alors c'est pas toujours le cas, mais on observe quand même une sorte de contamination, transdisciplinaire. Et de toute façon, il me semble, mais Marie répondra sans doute mieux que moi, la découverte d'autres artistes et d'autres disciplines est absolument un enrichissement pour chacun d'entre eux.
Comment se présente cette exposition? S'il fallait déambuler avec vous, Cécile Debray, vous êtes conservatrice, on le sait, au musée de l'Orangerie, mais là, vous êtes la commissaire de cette exposition, La fin des forêts.
J'ai déterminé 5 grandes thématiques qui permettent d'ordonner un tant soit peu ces travaux qui sont assez divers, voire éclectiques. Et donc, on fait une traversée, je dirais, selon une métaphore à la fois ascendante et une métaphore descendante, puisqu'on entre dans l'exposition avec deux œuvres d'artistes extrêmement reconnus. Une œuvre d'Angeleccia qui nous propose sa vision des pins qu'il avait lui-même filmés à la Villa Médicis quand il était pensionnaire en 1982.
Et qui ont été emportés
abattus par la tempête cette année, d'où sans doute cette sorte de réflexion autour de l'anthropocène. Et chez Angeleccia, ces images qu'il a remontées avec beaucoup d'amitié et de générosité pour le festival Viva Villa offrent une vision à la fois assez mélancolique, très poétique et à la fois teintée d'une forme de lyrisme ascensionnel, je dirais, puisqu'on est vraiment... On a le regard porté vers ces cimes sur le ciel romain. C'est une très belle œuvre. En parallèle, je montre des photos d'une action qu'avait menée Robert Smithson, célèbre artiste américain du Land Art, qui a fait une action à Rome en 1969 où il a déversé une benne d'asphalte sur le pan d'une colline, faisant là une sorte de coulée presque géologique, mais faussement évidemment géologique, avec un matériau éminemment urbain, et quelque chose de beaucoup plus sombre, plus noir et effectivement plus descendant, puisqu'on a le nez collé à la terre.
Là, c'est la photo, c'est une série de photos.
C'est une série de photographies qui a été choisie par un des pensionnaires de la Villa Médicis, qui est historien d'art, et qui a fait le choix de travailler sur cette action. Et donc, on a deux visions comme ça, l'une assez sombre, l'autre peut-être plus aérienne, plus poétique, et qui me semblait pouvoir, je dirais, un peu projeter une ombre tutélaire sur l'œuvre de ces jeunes artistes qui vont osciller entre des visions parfois second degré, assez drôles, des visions assez noires sur la question de l'anthropocène, de l'effondrement, qui est une thématique qu'ils reprennent à Bivarbourg, d'autres qui vont jouer avec un mélange de références à l'antique ou à la Rome baroque et les questions de recyclage actuelles, et c'est ce que j'ai regroupé autour de du thème de l'anamorphose. D'autres encore, et beaucoup d'ailleurs, ça a été vraiment le cœur de cette exposition, jouent avec la flore, avec des végétaux, et donc j'ai repris l'image de l'herbier pour déployer comme ça des herbiers très divers qui sont soit des herbiers photographiques avec un travail merveilleux de Clément Verger, d'autres qui ont travaillé sur par exemple l'indigo en faisant des teintures ou une réflexion de design autour du bambou, etc. Voilà, c'est quelques images, mais qui vous donnent l'idée d'un parcours extrêmement foisonnant, d'œuvres de très grande qualité, ce sont 3 résidences d'excellence, et qui permettent comme ça à la fois d'interroger une question très actuelle. On n'arrête pas de parler des arbres, du climat, mais également d'un effondrement social ou d'un danger d'effondrement, à travers donc... une génération d'artistes, et c'est peut-être ça, je ne montre que la promotion de cette année de ces 3 résidences. Donc, de facto, de jeunes artistes, c'est finalement une manière de presque de prendre le pouls d'une jeune génération de créateurs qui seront sans doute les grands artistes de demain et qui se saisissent à la fois des techniques, des formes pour
les grands artistes de demain ou les grands intellectuels de demain, parce qu'il y a aussi des écrivains, il y a aussi des penseurs, il y a aussi des historiens de l'art. D'ailleurs, cette exposition magnifique que je vous recommande vivement, si vous n'êtes pas loin d'Avignon ou si vous avez l'occasion d'aller de ce côté-là avant le 10 novembre, novembre à la collection Lambert. Cette exposition, donc La fin des forêts, se termine par une réflexion très intéressante d'une historienne de l'art qui, à partir des images de la peinture, se pose la question, mais comment faire entendre ce qu'on entend quand on est dans cette nature?
Oui, c'est Pauline Lafille qui a travaillé sur le grand tableau de Uccello, la bataille de San Romano, et qui s'est posé la question de, face à un tableau qui montre donc deux armées de chevaliers munis de lances qui,
donc scène de bataille,
voilà, devait produire un fracas énorme, hein, de l'entrechoquement des armures des chevaux et des lances, s'est posé la question de la représentation du bruit dans une peinture qui paraît sans cesse silencieuse. Donc c'est un travail très original, c'est un travail d'une très bonne historienne d'art. D'ailleurs là, elle a bénéficié de la bourse et de la reconnaissance de la Villa Berenson en Toscane. Donc c'est vraiment une belle historienne d'art qui a une belle pensée théorique et dont on montre une vidéo, et donc ça aussi c'est vraiment très propre à ses résidences, c'est que elle, qui en tant qu'historienne d'art a pour outil l'écriture, s'est saisie de la vidéo pour exposer en fait sa réflexion donc à travers une vidéo qui est une œuvre plastique qui montre des détails où elle lit des extraits, elle montre des éléments d'archives, etc. Et donc elle l'utilise de manière très originale en fait l'outil de la vidéo.
Comment concrétiser justement un texte littéraire, une réflexion d'historien de l'art dans une exposition, c'est-à-dire dans une installation? C'est ce que vous faites, Marie Bonin, vous qui êtes une des artistes exposées avec cette cinquantaine de chercheurs et d'artistes pour La fin des forêts. Vous êtes artiste, dessinatrice et graveuse, et pourtant c'est à partir d'un texte que vous avez réfléchi à une approche artistique concernant la nature.
Oui, c'est quelque chose de récurrent dans mon travail. En fait, j'ai fait des études littéraires avant de faire des études artistiques.
Voilà, qui explique ouais, ça doit... peut-être pas tout, mais une partie,
une
effectivement,
partie
de cette approche. Ouais.
Finalement, un peu malgré moi, dans chaque projet que je fais, il y a toujours la littérature, le texte qui s'immisce. Et j'ai aussi fait finalement des études en images imprimées, où j'ai appris des techniques d'impression manuelles, comme la sérigraphie, la gravure, mais aussi numérique. Et finalement, c'est pas que de l'image imprimée, c'est aussi, ça a forcément un lien avec le texte imprimé et avec l'objet imprimé, le livre sous toutes ses formes. Donc du coup, pour moi, c'est toujours important. Enfin voilà, il y a toujours à la base de mes projets, soit à la base, soit qui vient s'immiscer en petit à petit, au fur et à mesure, le texte qui apparaît. Et là, du coup, ma résidence à la Casa Velázquez, je suis vraiment arrivée au début de l'année avec ce livre sous le bras.
C'est-à-dire
Un balcon en forêt de Julien Gracq, que finalement j'ai découvert à une période où mon travail commençait à s'intéresser à la représentation du paysage et de la nature. Et en parallèle, j'ai découvert l'œuvre de Gracq et le balcon en forêt. Et pour moi, dans cette écriture, ce vocabulaire très géographique, cette écriture très ciselée, je pense qu'il y avait aussi un rapport avec la gravure, avec la façon dont je dessinais en gravure.
Qu'est-ce que vous avez fait?
Et du coup, ce que j'ai fait, oui, voilà, pour être plus précise et décrire l'installation, j'ai vraiment, je suis partie de fragments vraiment du livre, et de ces fragments est née une série de gravures. De gravures principalement, et j'ai imprimé ces gravures, quelque chose de nouveau que j'ai pu expérimenter à la Casa de Velázquez, d'imprimer sur du papier Japon, des papiers très transparents, du papier de soie, papier calque, et j'ai créé comme ça une liasse, vraiment une grosse série d'images. Et pour pouvoir mettre toutes ces images en regard, enfin, je me suis vraiment retrouvée avec une forêt justement de fragments. Je les ai glissés entre des plaques de plexi, et j'ai créé des sortes d'étagères où finalement il y a des bouts de texte aussi qui apparaissent, et l'œil du spectateur est amené à se promener dans dans ces fragments du texte de Gracq.
De dessins et de vos gravures.
Voilà, de mes gravures aussi. Et du coup, l'œil du spectateur est amené à vraiment faire l'expérience de la lecture, enfin de ma lecture et de la lecture en général de Gracq. Ouais, de Gracq.
Donc, ah oui, c'est un travail magnifique, hein, extrêmement sensible, très original, parce que moi, je n'avais jamais vu finalement une telle composition de ces transparences, de ces superpositions où en fait la matérialité du livre, parce qu'il y a même une sorte de, je sais pas si c'est une reproduction du livre lui-même, où on voit le titre, le nom de l'auteur qui est placé comme ça entre deux représentations de forêt, de sol. J'ai été très très frappée par ce travail qui est une très grande sensibilité.
Et pourquoi avoir choisi ce texte, ce roman de Julien Gracq, Marie Bonin?
Je pense qu'il y avait quelque chose qui me parlait beaucoup et qui rejoint, je pense, la thématique de la fin des forêts, c'est de cette forêt qui est finalement un des personnages du livre et qui absorbe tout ce qu'il y a autour d'elle, les événements. Enfin, c'est dans des temps troublés que se déroule le roman, et en même temps, tout en s'imprégnant de ces temps troubles, elle sert aussi de refuge et le personnage se retrouve vraiment à la dérive. Dans le paysage, c'était cette expérience-là aussi qui m'intéressait beaucoup.
Je vous propose, Marie Bonin, d'écouter une interview de Julien Gracq. C'était en 1977, au micro de Jean Dave, pour France Culture. Et écoutez-le bien, parce que on a vraiment l'impression que c'est un discours d'aujourd'hui, de notre rapport à la nature, Julien Gracq, en 77.
La littérature, depuis déjà pas mal de temps, est une littérature qui... Pour moi, je suis très sensible à ça. C'est une littérature où l'individu est façonné, pratiquement orienté et même fabriqué par le milieu social, par des contacts sociaux. En réalité, il y a bien entendu ce milieu social, je suis très loin de le nier, je ne suis quand même pas un solitaire complet, mais il y a aussi pour l'homme, enfin c'est pourquoi j'ai pris cette expression qui ne m'appartient pas, elle est très ancienne, seulement elle a été prise dans des sens très différents, de la plante humaine. L'homme est quelqu'un qui vit dans un milieu matériel aussi. Enfin non seulement il respire bien entendu, mais il est tributaire de la terre sur laquelle il vit, et à mon avis... J'ai le sentiment qu'il vit dans un contact continuel, une espèce de symbiose, si vous voulez, avec la nature, avec l'air, avec le climat, le temps qu'il fait, avec la terre sur laquelle il se déplace ou qu'il habite.
C'était Julien Gracq en 1977. Qu'est-ce que ça vous inspire, Marie Bonin?
C'est tout à fait ce que j'ai vraiment ressenti en lisant ce livre. Je connaissais déjà l'expression de plante humaine, et c'est pour ça que finalement dans mon installation aussi, il y a pas d'humain. C'est vraiment aussi, enfin, il y a juste une petite présence humaine, mais sinon c'est vraiment que de la nature, parce que finalement le personnage de ce livre fait vraiment corps avec la forêt et devient la forêt et se dissout presque. Dans la forêt.
Et dans cette exposition, La fin des forêts, Cécile Debray, l'arbre est très présent dans tous ses états. Même même recyclé.
Ouais. Oui, puisqu'on est parti de cet événement un peu traumatique de la chute des pins de la Villa Médicis. Et certains des pensionnaires, en fait, se sont saisis des tronçons de ces arbres. Il y a des chênes, des pins. Il y a un couple de designers qui les ont transformés avec les ont peints et les ont transformés dans une sorte d'installation très très étonnante. On retrouve également ces arbres et ces tronçons dans plusieurs vidéos des uns et des autres. Oui, les arbres, les végétaux, ça se ramifie, hein. Il y a aussi des questions d'objets de bois flotté qui traversent l'Atlantique. On peut voir comme ça plusieurs thématiques liées, en tout cas, à la flore et à la terre. Mais pour revenir à Julien Gracq, quand il parle comme ça de ces pousses humaines, où évidemment on retrouve les penseurs peut-être plus actuels de ces questions-là, comme Emmanuel Ecoccia, chez chacun de ces pensionnaires. C'est très étonnant de voir comment, notamment à la Villa Médicis, ils ont eux-mêmes organisé une forme de symposium autour de la question de l'anthropocène, et combien ils sont sensibles à ces nouvelles réflexions, à la manière dont Koshia va dire que finalement il y a une forme de d'appartenance, d'équilibre comme ça à un biotope, que ce soit l'homme, les animaux et la terre, et que tout ça va basculer ou se transformer. L'homme disparaîtra sans doute, mais la vie va continuer après lui.
Il y a un arbre, je m'y colle dans la petite voie de Saint-Amand. Je t'attrape, tu t'y colles, je me cache à toi maintenant. Il y a un arbre, pigeon vole dans la petite voie de Saint-Amand. Où tournent nos rondes folles, pigeon vole, vole, vole au vent. Dessus l'arbre, oiseau vole et s'envole, voilà le printemps. Il y a nos 15 ans qui s'affolent dans la petite voie de Saint-Amand. Et sous l'arbre sans parole, tu me berces amoureusement. Et dans l'herbe, jupons volent et s'envolent nos rêves d'enfant. Mais un beau jour, tête folle, loin du petit bois de Saint-Amand. Et loin du temps de l'école, je suis partie, vole, vole au vent. Bonjour l'arbre, mon bel arbre, je reviens, j'ai le cœur content. Sous tes branches qui se penchent, je retrouve mes rêves d'enfant. Il y a un arbre, si je meurs, je veux qu'on m'y couche doucement. Qu'il soit ma dernière demeure dans le petit bois de Saint-Amand. Qu'il soit ma dernière demeure dans le petit bois de Saint-Amand. Il y a un arbre, pigeon vole, mon cœur vole, pigeon vole et s'envole. Il y a un arbre, pigeon.
Aude Lavigne a rencontré quelques artistes de cette exposition, à voir donc en ce moment et jusqu'au 10 novembre à la collection Lambert à Avignon, La fin des forêts. C'est une exposition, on l'a dit, collective, qui présente les travaux d'une cinquantaine de pensionnaires des grandes villas, la Villa Médicis, la Villa Kyoto, la Villa Velázquez à Madrid. Avec Marie Bonin, on a vu comment la littérature pouvait travailler avec d'autres formes d'art, comme la sculpture, la peinture, le dessin, et même le graphisme d'ailleurs.
La gravure.
Oui. Et la gravure. Mais il y a aussi des écrivains, là, par exemple, Arnaud Rickner est présent avec ce que vous appelez d'ailleurs vous une douche littéraire, c'est-à-dire le fait entre deux étages, on a un petit espace où on peut s'installer et écouter le texte d'Arnaud Rickner. Comment vous appelez ça,
Cécile? Non, une douche sonore, c'est un vocabulaire un
douche,
peu technique.
Une douche
voyez.
Sonore, ouais.
Ça c'est, oui, non, ça sont les coulisses, mais c'est plutôt.
C'est beau ça, une douche.
Oui, c'est vrai, on pourrait.
Mais reste les musiciens. Comment vous avez utilisé les, parce qu'il y a des musiciens
oui,
pour
alors,
ces résidences.
Effectivement, ça s'appelle festival parce que il s'agit à la fois d'une exposition, mais également d'un format festival qui permet d'accueillir les arts vivants. Avec des concerts, des lectures, des représentations de danse. Mais c'est pour ça que le festival tel qu'on l'a organisé a consisté d'abord en une ouverture sur un week-end où on pouvait à la fois voir une représentation de danse, notamment beaucoup de chorégraphes du Japon qui ont travaillé, qui ont été très marqués par la tradition du buto, cette danse post-Hiroshima, qui dit quelque chose sur la question de l'anthropocène, hein, qui est une danse très à la fois métaphysique et assez morbide. On a beaucoup de musiciens qui ont donné des petits concerts dans tout l'espace de la collection Lambert, et la littérature qui est très présente, qui a à la fois permis d'organiser des lectures. Donc Arnaud Rickner, on lui a aménagé une place dans l'exposition, c'est-à-dire qu'il a fait une sélection de textes qui étaient en lien avec la thématique de l'exposition, et effectivement sur un large palier d'escalier, il y a des fauteuils où on peut écouter ces textes lus par lui-même. Et un soir, dans l'auditorium, il nous a également offert une lecture d'un texte théâtral. Et Enfin, dernier type de monstration, c'est la possibilité d'accueillir ceux qui travaillent avec l'écriture dans le catalogue.
On va terminer par la littérature, si vous voulez bien, Cécile Debray. Et donc, avec vous, Marie Bonin, je vous ai demandé de venir avec ce livre qui a inspiré vos travaux artistiques, vos derniers travaux artistiques exposés dans le cadre de la Fin des Forêts, pour ce festival Viva Villa.
Ouais, y a eu tellement de fragments qui m'ont inspiré. Peut-être celui où il parle, finalement, le balcon en forêt, il appelle ça aussi le toit. Cet endroit où, en fait, il attend la guerre qui n'arrive pas et qui lui permet de déambuler dans la forêt. Je lis. Jamais encore, il n'avait autant que dans cet hiver du toit, senti sa vie battante et tiède, délivré de ses attaches, isolé de son passé et de son avenir, comme par les failles profondes qui séparent les pages d'un livre.
Marie Bonin, c'est une vieille édition de ce livre de Julien Gracq.
Du balcon en forêt, oui.
Ouais, du balcon en forêt. Est-ce qu'on peut dire que c'est votre livre de chevet ?
Oui, c'est devenu mon livre de chevet. J'en ai même plusieurs exemplaires pour pouvoir le torturer un peu, la noter et le photocopier pour mon installation. Je m'en suis beaucoup servi.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.
Quelques visuels de cette exposition La Fin des Forêts dans le cadre du festival Viva Villa est à retrouver à la page du réveil culturel en passant par franceculture.fr. Merci Cécile Debray d'être venue. Je rappelle que vous êtes conservatrice et surtout la commissaire de cette exposition et merci Marie Bonin de l'avoir accompagnée. Merci beaucoup.
Merci aussi à vous.
Belle matinée, on se retrouve demain.